Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Yasmine Abdel-Fadel. Une main de fer dans un gant de velours. Un vent de fraîcheur qui décoiffe.
Cube Radio.
Je vous l'ai dit en début d'émission, la plateforme électorale du Parti conservateur du Québec a été dévoilée hier par son chef Éric Duhaime et nous avons le plaisir de l'avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Duhaime.
Bonjour.
Alors, cette plateforme électorale Liberté 22 que vous avez dévoilée hier, vous misez sur 6 sujets en particulier. Pourquoi juste sur ces 6 sujets?
Ben parce que c'est nos priorités. Vous savez que présentement, la priorité des Québécois, c'est de faire face à l'inflation notamment. Vous venez d'en parler aussi, d'avoir accès à des meilleurs soins de santé, un système de santé plus efficace notamment. Donc, on a misé sur ce qui préoccupe davantage les Québécois. C'est pas nos adversaires ou les médias qui vont décider là, sur ce qu'on va proposer aux Québécois. C'est les membres qui ont voté en congrès. Et c'est sur ces enjeux-là que j'entends faire campagne au cours des 49 prochains jours.
Il y a quand même l'immigration, la défense de la langue française, la laïcité qui fait partie des préoccupations des Québécois. Ne partagez-vous pas ce constat?
Je comprends que c'est la priorité de la CAQ. Je comprends que c'est l'enjeu numéro un pour la CAQ, mais c'est pas l'enjeu numéro un pour les Québécois. Quand les gens voient les taux d'intérêt monter et qu'ils se demandent s'ils vont être capables de renouveler leur hypothèque, il y a un Québécois sur quatre qui se pose cette question-là présentement. Je pense que sa priorité est ailleurs. Quand on voit le litre d'essence à 2 $, il y a des gens pour qui la priorité, c'est de faire le plein. Il y a des gens pour qui c'est aussi payer l'épicerie, que le panier d'épicerie n'arrête pas de monter. Donc, on veut focaliser sur ce qui préoccupe de plus des Québécois. Je pense que d'ouvrir des chicanes avec les anglophones au Québec, ça fait pas partie de la priorité de beaucoup de gens, à part M. Legault et les caquistes.
Alors, le projet de loi 96, c'est un projet de loi que vous engagez à retirer, finalement, oui. Si vous êtes au pouvoir?
Ben écoutez, d'ailleurs, c'est drôle, hein, parce que les gens réalisent pas, mais le Parti québécois, même le Parti québécois a voté contre ce projet de loi 96-là. Pourquoi? Parce que le projet de loi 96, essentiellement, là, il améliore pas, il ne détériore pas les relations, l'avancée du français à Montréal, là. C'est un projet de loi très partisan, très politique que la CAQ a présenté pour tenter d'aller chercher encore un petit peu plus de votes au Parti québécois, mais qui va pas changer grand-chose à part de créer des chicanes artificielles avec les anglophones. Je ne vois pas en quoi la langue française se trouve mieux aujourd'hui après l'adoption de ce projet de loi qu'elle l'était avant. Moi, j'embarque pas dans la stratégie de M. Legault, d'autant plus qu'en partant dans ce projet de loi-là, il veut soustraire 38 articles de la Charte des droits et libertés. Pour moi, c'est avec ce qu'on vient de vivre depuis 2 ans et demi, là, enlever des droits fondamentaux aux citoyens et aux Québécois, là, c'est pas une bonne chose. On n'est pas là, on n'est pas là. Je pense qu'on a été conscientisé que le gouvernement, là, il a beaucoup trop bafoué nos droits et nos libertés. Il faut pas y donner un chèque en blanc. Si en partant, pourrait empêcher des citoyens de contester devant les tribunaux la légalité d'une loi qui violerait leurs droits fondamentaux.
Est-ce que c'est la même logique qui s'applique pour la loi 21, pour la laïcité?
La loi 21 était déjà adoptée, honnêtement. La loi 21, il y a une grosse différence, c'est que...
Elle enlève des droits, on utilise une clause dérogatoire pour soustraire des personnes au droit de pouvoir contester devant les tribunaux, c'est
mais
prouvé.
Mais il y a des gens qui ont des droits aussi d'avoir des services offerts de façon laïque. Moi, comme gay, ça me tente pas que les gens affichent leurs convictions religieuses quand j'ai affaire avec un agent de l'État qui souhaite être neutre. Pour moi, ça, c'est quelque chose d'autre. Est-ce qu'on croit oui ou non?
Mais là, il y a un double discours, M. Diem, là, quand vous dites que les anglophones, ils ont des droits qu'on peut pas leur enlever, ça fait 2 ans qu'on parle d'enlever des droits à des personnes, d'atteindre leur liberté, leur liberté individuelle, puis qu'on arrive à la loi 21, ben là, c'est différent parce que, on prend des expériences personnelles pour expliquer en quoi on peut enlever ces droits-là.
Ben oui, parce que c'est comme ça, la laïcité de l'État, la laïcité, il n'y a pas de contradiction, là. Faut être de bonne foi ici, là. La laïcité de l'État, c'est quelque chose qui, pour plusieurs, n'est pas négociable et je suis de cette école de pensée-là. Pour moi, quand je fais affaire avec l'État, je veux pas avoir quelque chose de teinté de façon religieuse.
Soit avant l'adoption de la loi 21, vous considériez que vous étiez...
Je suis tout à fait d'accord à ce qu'on respecte la liberté religieuse des gens, mais leur liberté religieuse s'arrête là où le droit d'avoir des services de façon laïque commence. Et ça, ça commence par avoir un agent de l'État qui m'aborde de façon neutre et objective. Vous savez, moi, j'ai habité au Maroc dans une autre vie. Royal Air Maroc empêchait, par exemple, des hôtesses de l'air de porter le voile, alors qu'on parle d'une compagnie, là, d'un royaume islamique. Puis ça se fait, puis il n'y a personne qui a jamais accusé ces gens-là d'être racistes ou d'être islamophobes.
Quoi qu'on n'est pas au Maroc, on est au Québec, et donc on peut avoir des lois proprement québécoises et pas s'inspirer du Maroc non plus.
Mais il ne faut pas d'être plus, d'essayer d'être plus catholique que le pape ou d'essayer d'être plus tolérant envers l'expression de symboles religieux dans l'espace public que même des royaumes islamiques.
Exactement. Faut peut-être ne pas prendre d'autres pays comme exemple quand on ne se considère pas comme ces pays-là. Revenons à votre plateforme électorale, Monsieur Duhaime. Vous parliez des préoccupations des Québécois. Moi, j'ai l'impression qu'autour de la fin juin, début juillet, les locataires, ils ont quand même comme priorité l'accès au logement. Or, vous proposez de faciliter la vie finalement aux propriétaires plutôt que celle des locataires. Pourquoi prendre parti pour les propriétaires plutôt que les locataires qui en arrachent?
Parce qu'il y a eu un déséquilibre au Québec depuis trop longtemps qui fait qu'aujourd'hui, les propriétaires n'ont plus d'incitatifs financiers à investir dans le locatif, dans l'immobilier locatif, et on se ramasse avec une pénurie de logements, ce qui fait augmenter les prix, puis ça, les locataires en sortent perdants. Si on veut véritablement résoudre la crise du logement, il va falloir qu'il y ait plus d'investissements privés dans le secteur locatif, et pour ça, ben il faut que les propriétaires puissent profiter de leur investissement. Il y a trop de bâtons dans les roues présentement, les gens ne veulent plus investir, ce n'est plus payant investir là-dedans, et il faut utiliser les lois du marché pour augmenter l'offre de logement plutôt que de le combattre, parce que là, présentement, on est en train de perdre tous les tableaux. Il faut qu'il y ait davantage de construction de logements locatifs. C'est le programme du Parti conservateur va dans ce sens-là. Il faut augmenter l'offre, et c'est pour ça qu'on veut changer un peu les règles du jeu.
L'abandon du système public de garderie qui a largement contribué à mettre des femmes dans le marché du travail. On se rappelle du projet qu'avait porté Pauline Marois et qui a donné des résultats un peu plus clairs. Vous êtes pour l'abandon du système public de garderie?
Non, c'est pas ça du tout. Ce qu'on veut, c'est de permettre à toutes les familles de profiter d'un service de garde. Vous savez, aujourd'hui, il y a 52 000 enfants qui n'ont pas de place, qui végètent sur des listes d'attente au Québec. C'est inacceptable.
Alors maintenant, on rend tous les enfants sur la même liste?
L'autre élément aussi qui me préoccupe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, là, qui ont des horaires atypiques, surtout maintenant avec beaucoup de gens qui font de plus en plus de télétravail. C'est pas vrai que tout le monde travaille du lundi au vendredi de 9h à 5h. Et ce qu'on veut, c'est que ces gens-là aussi aient une aide de l'État. Et c'est pour ça que le Parti conservateur du Québec va proposer, comme l'ADQ l'a déjà proposé à une certaine époque, qu'on envoie une allocation imposable de 200 $ par semaine par enfant aux parents qui ne trouvent pas place ou pour qui ça ne convient pas le système des CPE. Et c'est ce qu'on a proposé hier dans notre plateforme électorale.
Alors, vous continuerez à financer le système public des garderies à 8,05 $?
On n'a jamais dit qu'on voulait sous-financer ou qu'on voulait réduire le financement. Au contraire, on veut améliorer le financement. On veut en mettre davantage pour aider davantage de parents dans la garde de leurs enfants.
Pour conclure, Monsieur Duhaime, petite question pour vous. Benoît Charrette va annoncer la décision du gouvernement concernant la fonderie Horn aujourd'hui. Qu'est-ce que vous feriez à sa place? 15 nanogrammes par mètre cube ou 3 selon la norme québécoise?
D'abord, la première chose, là, le gouvernement a dit tout son contraire et n'importe quoi dans ce dossier-là. Hein. Ils ont même menacé de fermer l'usine, ce qui pour nous était complètement inacceptable. Il faut y aller progressivement. C'est évident que l'entreprise ne peut pas réduire du jour au lendemain, passer de 100 à 2 ou 3. Là. Il faut, ça prend un plan, mais c'est clair que la population là-bas a aussi droit d'être protégée puis de vivre dans un environnement sain. Donc, il faut y aller graduellement, il faut utiliser les nouvelles technologies. Moi, ce que j'ai proposé, c'est qu'au lieu de gouvernement qui aide financièrement des entreprises, moi, je pense que M. Fitzgibbon donne beaucoup trop d'argent à des entreprises amies du régime, il faut arrêter ça. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faudrait peut-être créer une chaire, par exemple, à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue pour développer des technologies qui pourraient profiter à toutes les entreprises puis faire une espèce de centre du savoir. Là.
Mais dans l'intervalle, M. Duhaime, ils font quoi, le gouvernement? Ils doivent prendre une décision aujourd'hui?
Comme je vous dis, ça ne pourra pas arriver du jour au lendemain. C'est impossible qu'en 24 heures, on réduise ça. Là. Ça prend un plan qui est dans le temps, là, qui est graduel. Il faut y aller par séquence. Ça prend un plan réaliste, pas nous donner des cibles qu'ils seront jamais capables d'atteindre. Dans 6 mois, on va se rendre compte que ça servait strictement à rien. Donc, il faut accompagner l'entreprise. Puis la meilleure façon de l'accompagner, selon moi, c'est d'investir dans le savoir-faire, s'assurer d'améliorer les technologies qui vont être plus respectueuses de l'environnement.
Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
C'est un plaisir. Au revoir.